Ici Chantal.
Ici Vicky.
Ici Alex.
Et vous écoutez... Non,
mais j'ai dit no, puis là, quand quelqu'un a commencé à dire écran, j'ai buggé, ça, je m'excuse.
C'est ça. Bon, on veut le tien seul maintenant.
Écran.
OK! Oh my God. Ah, et oui, vous écoutez un épisode de Nos écrans, un épisode avec plusieurs sujets qui vont se recouper. Je pense sincèrement qu'on fait plus qu'une demi-heure. Donc, regardez votre temps. D'habitude, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment nos épisodes parce qu'ils sont courts. Peut-être que cette fois-ci, on va être un petit peu plus long. On veut quand même vous prévenir. Et on commence le tout avec Chantal.
Yes! Donc, moi, c'est sur Netflix cette semaine. Puis, je vais vous parler « The Curse of La Llorona ». Donc, il y a plusieurs films avec ce titre-là, avec des titres semblables à ça. Ça, c'est celui de l'univers ultra « On étire la sauce » de The Conjuring. Donc, en résumé, c'est une social worker, dans le fond, quelqu'un qui travaille à style DPJ, si on veut. Donc, elle travaille là-dedans. Puis là, ça commence avec... Bon, il y a deux enfants. On le voit de toute façon dans la bande-annonce. Bon, il y a deux enfants qui sont morts. Puis c'était quelqu'un... qu'elle, elle s'occupait, c'était comme leur caseworker. C'est elle qui s'occupait de leur cas. Fait que ça commence avec ça, puis là, plus l'enquête avance, puis là, ça commence à affecter ses enfants à elle, puis là, elle découvre qu'il y a autre chose. Ouh! Bon, c'est pareil comme tous les films de l'univers de Conjuring. C'est basically, bonjour, je vous présente Jumpscare. Fait que c'est ça. C'est des sauts faciles à cause qu'il y a un gros bruit fort. C'est des affaires de fantômes, des affaires de possession. Ça change pas. Je dirais la seule affaire, c'est qu'au début, ça commence bien. Puis après ça, j'ai commencé à vraiment m'emmerder puis à faire « OK, ah d'accord. » Ça explore pas tant la légende en tant que telle. Ça explore pas vraiment grand-chose. Là, on allait dans un film avec qui est basé sur une légende hyper populaire pour les Mexicains. Le rôle principal est pas une personne latinos. Je veux dire, typiquement américain. Letterboxd, c'est 2 sur 5, puis 28% sur Rotten Tomatoes.
Wow!
On a Linda Cardellini dedans, qu'on est habitué de voir dans Freaks and Geeks, qui a joué aussi dans Scooby-Doo. J'aimais bien les commentaires qui venaient à plusieurs reprises ici et là sur le web en feuilletant que j'ai vu les jokes par rapport à Scooby-Doo de pourquoi elle n'a pas appelé sa gang pour l'aider. Là, je trouvais ça pas mal génial, puis probablement ça aurait fait un meilleur film. Puis il y a aussi Raymond Cruz dedans qui était dans Breaking Bad, qui est toujours en second rôle, je veux dire, qui
ouais.
Brown people in the back. Puis le directeur, c'est un certain Michael Chavez, que j'ai jamais vu dans rien, mais il travaille sur le prochain Conjuring. Quelle surprise! Puis le film est évidemment produit par James Wan. Fait que c'est à peu près tout ce qu'il y a de plus typique de tout cet univers-là au complet, mais vraiment, je dirais rated PG.
Ouais.
Peut-être même général. Honnêtement, là, c'est... Il n'y a rien d'extra, il n'y a rien... C'est comme s'il avait voulu offrir quelque chose d'ultra, hyper facile parce que tout est comme... Tout est délavé, tout est... Il ne passe pas grand-chose. L'histoire, ils ne vont pas approfondir l'histoire. Il n'y a rien. C'est tellement vide, j'en revenais pas. C'est comme si tout était juste en surface. Les scènes d'action... C'est à peine s'il y a un peu d'action avec, à chaque fois, l'affaire qui pop de nulle part. Tout le temps. Fait que je veux dire... Puis moi, je suis quelqu'un qui fait des sauts facilement, puis à un moment donné, j'en faisais même plus. Parce qu'en plus, t'es voué venir 100 000 à ronde. Fait que là, t'es comme, bon, OK. Et voilà, un autre bruit fort. Tu sais, c'est comme... J'étais vraiment déçue, même si je m'attendais à rien. Parce que je m'attendais que ça soit pas bon. Mais habituellement, quand je m'attends que c'est pas bon, je vais me dire, oh, ben, tu sais, au moins, c'était entertaining. Oh, ça a passé le temps. J'avais hâte qu'il finisse. À la fin, ça s'étire. Fait que moi, honnêtement, je le déconseille. J'ai pas vu les autres. Puis je me sens pas particulièrement intéressée. Ça l'a pas réveillé rien en moi, là. Fait que, tu sais, j'ai pas une tonne de choses à dire, honnêtement. sur le sujet, c'était... Mais,
tu vois, moi, j'ai vu aussi la Lorna de Shudder, qui est un slow burn, mais moi, je trouve qu'il burn jamais, il est juste slow. Puis, on a apprécié celui-là, mon chum et moi, mais on était dans l'ambiance solide, de tout dans le noir, bouteille de vin rouge, on se détend, puis on écoute ça. Et je m'attendais à la sauce Conjuring, et je trouve que c'est ce qu'on nous a servi. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avais pas aimé, mettons, le Annabelle. Le premier Annabelle, il était-tu dans le Conjuring Universe? Oui, ben oui, ça l'avait, excusé. J'avais vraiment pas aimé le premier Annabelle. Fait que, tu sais, je suis pas capable de tout absorber non plus, là, on s'entend. Mais celui-là, peut-être le moment où on l'a écouté, je l'avais trouvé efficace, mais j'ai aucun souvenir. Fait que c'est pas un bon film qui va marquer, que tu veux acheter, que tu veux réécouter. Mais je me souvenais que je l'avais trouvé efficace. Sauf sa fin, mais il semble qu'à un moment donné, on voit la Lorna en CG, puis ça détruit un petit peu.
Ouais,
le...
ouais, ouais, ça c'est pour ça que je dis, là, vraiment, quand tu arrives à la fin, là, c'est comme, oh, OK. C'est le genre de film, je le regardais, puis je me disais, si j'aurais écouté ça le soir, dans le noir, j'aurais tombé endormie.
OK.
Il y a des films, de même, quand ils viennent pas me chercher,
ouais.
Je pars, je fais, bon, ben, salut.
Tandis que moi, au contraire, un film comme ça, dans le noir, avec une bouteille de vin, puis tout, là, on écoute des fois nos films dans le noir complet avec quelques chandelles, on se met vraiment dans l'ambiance, puis celui-là a fonctionné, là, les jumpscares, les enfants au début, tu sais. Moi, ça avait vraiment fonctionné, mais vu que c'est une recette, tu le sais où ce qu'ils s'en vont. Tu le sais exactement où ce que ça va aller, tu sais exactement comment ça va finir. Il n'y a pas de surprise, c'est toutes des cases cochées, c'est une liste complète. Mais moi, le jumpscare marche énormément avec moi.
Que... Habituellement, moi aussi, mais là, non. C'était trop... Il mettait trop tout en place.
Oui.
Ça sortait pas de nulle part, jamais, là.
Non.
T'sais, c'était tout le temps, OK, attention tout le monde, vous êtes prêts? C'est comme si vraiment ils se sont dit ça, les enfants vont l'écouter quand ils vont être curieux par les films d'horreur.
Oui, oui.
C'est vraiment
exactement
ça.
Ce que tu veux dire.
Je sais pas, j'étais...
Mais vu que, et comme je te dis, je suis d'accord avec ton opinion, c'est que vu que je savais que c'était un film qui s'adressait pas aux cinéphiles, on dirait que j'avais zéro attente, puis que moi, c'était correct. Dans le sens où j'étais même pas dans « impressionne-moi » ou « fais-moi une surprise », non, j'avais zéro attente, fait que je me suis juste laissée porter par ça, genre.
Ben, c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a surprise, c'est parce que j'avais aucune attente, je me disais, à la limite, ça va passer le temps, fait que j'étais surprise d'être vraiment comme...
Même
finalement,
pas,
j'aurais pu passer mon temps.
Oui, vraiment. Vraiment, mais je comprends, oui, puis effectivement, c'est une recette, tu sais, c'est comme les Paranormal Activities, il y en a qui ont tout aimé, moi, après le deuxième, j'ai fait, OK, on a compris, tu sais.
Ben, c'est ça. Celui-là, ça filait très ça, parce qu'il y en a d'autres films dans l'univers de Conjuring que même si tu sais qu'est-ce qui se passe, même si tu sais qu'est-ce qui s'en vient, sont super excellents ou sont efficaces à la limite. Mais celui-là, non, ça faisait rien pour moi. Puis, tu sais, je connais même pas personne dans mon entourage à qui je pourrais le recommander. T'sais, moi, j'ai pas aimé ça, mais toi, t'aimerais ça.
Oui, effectivement, je suis d'accord. À part, encore une fois, des jeunes qui s'initient un peu à l'horreur, mais que... J'en connais, là, mettons, là, des plus jeunes. Moi, j'aime pas trop l'horreur, j'en veux un petit peu. Ben, tu sais, c'est que la Lorna, c'est simple. C'est très, 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 très simple.
C'est ça. Je suis même pas sûre si ma nièce de 13 ans, elle aimerait ça.
Tu vois? Mais il y a pas de surprise. Puis je vais rebondir là-dessus, à moins que tu avais autre chose à ajouter.
Non, moi, malheureusement, cette semaine, je vous parle de quelque chose que j'ai pas aimé.
Mais c'est correct, c'est parce que j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'on finit avec « il n'y a pas de surprise », alors que moi, ma suggestion, c'est que des surprises. Ça s'appelle « The Morning Show », c'est sur Apple TV. Mon chum arrive un matin et me dit « Hey, mon amour, j'ai vu que je viens de m'acheter un iPhone, j'ai le droit à Apple TV gratuit pendant un an, je le prends dessus. » Je suis comme « Ben oui, au pire, gratuit pendant un an, qui dit non à ça ?» Et j'ai exploré un peu Apple TV et j'ai sauté sur The Morning Show. J'en avais entendu parler en bien et ça rend exactement... C'est encore mieux que ce que j'aurais pu penser. Fait que moi, c'est le contraire, Chantal. Je suis dans surprise en surprise. Quand j'ai écouté le premier épisode, j'ai longtemps hésité parce que les 5 premières minutes ont un punch. Puis je me suis dit, est-ce que je suis capable de parler du show sans parler du punch? Tellement que moi, je ne l'ai pas vu venir. C'est vraiment bon. Finalement, je ne peux pas vous parler du show sans pas vous parler du punch. Désolée, c'est le punch des 5 premières minutes. Ce n'est pas la grande révélation, mais quand même. En fait, The Morning Show, c'est l'histoire du plus gros show du matin, tu sais, tourné à New York, qui est disponible sur toutes les États-Unis. C'est The Morning Show, c'est le show du matin que tout le monde écoute, ou presque. Il est animé par le personnage de Jennifer Aniston et le personnage de Steve Carell. La série débute, il est 3 heures du matin, t'as le producteur, il est couché sur le tapis, puis il reçoit un appel, puis tout de suite, il appelle Steve Carell, c'est pas ce qui se passe. Scène suivante, il essaie d'appeler Jennifer Aniston une fois, deux fois, trois, elle répond jamais, elle s'en crisse. Elle arrive au show, puis elle fait « Voyons, arrête de m'appeler, qui sait qui est mort? » Tu sais, il est 3 heures du matin, il doit pas avoir quelqu'un de mort. Et là, on comprend que celui qui est « mort » en gros guillemets, c'est Steve Carell, son co-host, et dans le scandale Me Too.
Oh.
Ah, mais c'est bon, Alex, là. C'est bon, là. C'est du bijou de série télé. C'est tout ce que tu veux et plus encore. Là, t'apprends que Steve Carell, ça fait 15 ans qu'il anime ces deux-là ensemble. Ils se font appeler le couple de la télévision, le couple chéri, le couple chouchou. Il y a toute la promotion est faite sur le fait qu'ils sont un couple sans être mariés. Tu sais, c'est pas des mariés, c'est pas des amants, mais c'est le couple de la télévision. C'est comme si Salut, bonjour, ici au Québec, était animé par un duo homme-femme, puis tout le monde ne vivait que pour ce duo-là. Et là, la série va vivre sur les répercussions, mais vraiment, là, tu sais, là, l'écho, là, que oui, le centre, la répercussion, c'est Steve Carell, mais ça va plus loin que ça. Puis à plein de moments, Jennifer Aniston, son personnage, nous fait rappeler que, hey, pouvez-vous comme vous souvenir que ce show-là, c'est pas juste lui, c'est moi aussi. Puis, tu sais, pas à chaque fois que vous m'attaquez moi, mais plus comme à chaque fois que vous dites que le show, il est fini, c'est comme si vous me disiez que moi, je suis fini. Mais moi, je suis pas fini. Moi, je suis encore là. Pouvez-vous me féliciter d'être encore là au lieu de me critiquer? Parce que c'est pas moi qui les ai agressés, ces femmes-là. Fait qu'on peut-tu me suivre, moi? Tu sais, m'appuyer, moi?
Exactement. En tout cas,
j'ai des notes, là, j'ai 4 pages de notes tellement que j'ai adoré ça. Et là, en parallèle, ce qui arrive dans les premières minutes du show, c'est que tu as le personnage de Reese Witherspoon qui est dans une télé locale conservatrice à l'autre bout des États-Unis. Puis là, elle fait un vidéo viral, puis tout le monde en parle, fait qu'elle est invitée au Morning Show pour parler avec Jennifer Aniston, puis tu comprends qu'elle va devenir sa co-host. Mais sincèrement, c'est un autre punch que je vous dévoilerai pas de pourquoi et de comment devient sa co-host. Je ne l'ai jamais vu venir. Cette série-là, là, c'est des rebondissements les uns après les autres. J'ai écrit là une grosse page, là, personnage complexe. Parce que on va également suivre la trame narrative de Mitch, celui joué par Steve Carell, qui est agresseur. Et c'est là que c'est intéressant parce que t'as d'abord le premier épisode où il dit « Ben voyons donc, c'était toujours consensuel. C'était toujours dans le consentement. » Mais tu sais, tu dis « Ouais, mais attends là, t'es en position d'autorité, t'es une vedette, c'est pas ton consentement. » Et plus t'avances dans le show, plus t'as, oui, des femmes qui sortent dans la place publique puis expliquent comment qu'elles ont vécu ça, puis t'as sa réaction à lui. Mais tu sais, il y a vraiment à un moment donné, lui qui sort une phrase de « Voyons donc, je suis un journaliste qui fait 22 millions par année, voir que je m'intéresse vraiment à une petite recherchiste puis ce qu'elle a à dire, mais semble que c'est évident que je voulais coucher avec. » Comprenez à quel point lui, il voit pas comme nous, on le voit. Puis c'est une partie qui est intéressante. Parce que c'est pas juste ça qui est intéressant dans le show. Ce qui est intéressant, c'est aussi la dynamique entre Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Autre chose magnifique de cette série-là, c'est que on a déjà vu des séries avec deux femmes fortes qu'on va confronter. La vieille, la nouvelle. La rigide, la hippie. On n'est pas allé là-dedans. OK? On n'est pas allé là-dedans. Oui, Jennifer Aniston est souvent décrite. Des fois, comment qu'il l'a appelé? The High Queen. Son nom, c'est Alex. La High Queen Alex. Ou sinon, t'as pu geler. Acting like a wet cat. elle agit souvent comme un chat tout mouillé, là. Oui, tu sais. Hey, très sauvage, très dur d'approche. Mais on y a pas juste donné ça. Vous comprenez? Elle n'est pas juste sauvage et dure d'approche. Elle a plein d'autres choses qui y arrivent. Elle a une panoplie d'émotions. Puis, elle a même un moment où elle vit une crise où elle sent pas bien. Puis elle décide d'aller voir Mitch, son ancien co-host. Puis elle dit, mais je te déteste tellement pour ce que tu m'as fait. Puis ce que tu as fait aux autres femmes. Mais elle dit, tu comprends pas à quel point tu m'as atteint moi aussi. Tu comprends pas à quel point tu m'as affecté moi aussi. Parce que là, ils sont tous en train de dire, on cancelle le show puis on le repart. Mais moi, je mérite pas d'être cancellé, tu sais. Puis là, lui qui répond, ben voyons donc, tu le savais. Puis là, c'est le jeu de qui sait quoi. Fait que ça, c'est la fin de la saison 1, c'est qui sait quoi, puis qui a abusé de ce savoir-là. Qui a profité du fait qu'il savait que lui, il s'amusait avec les petites recherchistes, puis les poseuses de micro, puis ces affaires-là. Donc la série, là, est vraiment complexe, là. Puis, ça pose plein de questions sur le Me Too. Par exemple, t'as une des personnes qui est productrice dans le show, elle a couché avec Mitch, puis elle s'est elle-même séparée de lui. Il est marié, ça me tente pas, puis ça va nulle part, pis ça m'intéresse plus, fait qu'ils se sont séparés. Puis, des années après, elle est encore étiquetée comme la personne qui a couché avec la vedette. Puis elle, son arc narratif, c'est ça te colle toujours à la peau. Puis même si 5 ans plus tard, t'as encore une promotion, ça te colle à la peau de est-ce que cette promotion-là, tu l'as eue parce que t'as couché avec une autre vedette? Fait que c'est super intéressant, c'est tellement complexe. Tu sais, c'est aussi sur l'amitié, est-ce que ces deux femmes-là, Reese Witherspoon puis Jennifer Aniston, peuvent être amies? La question se pose parce qu'ils ont tellement des buts différents dans la vie, des désirs différents dans la vie. Et c'est vraiment bon. Pour vrai, je le sais que c'est pas tout le monde qui a Apple TV, là. Fait que, tu sais, je parle d'un show que c'est vraiment pas tout le monde qui va voir. Mais ça pose des questions sur la société américaine, sur le Me Too. Un autre exemple de scène, Mitch est en crise parce qu'il dit « Moi, je suis pas un Me Too. J'étais pas un violeur, je les ai pas violés. On avait du consentement, ils étaient d'accord. Il y en a qui me désiraient, puis il y en a d'autres qui m'ont utilisé pour faire avancer leur carrière. Moi, on était d'accord, je ne suis pas un violeur. » Puis là, il arrête pas de dire, moi, j'ai été pris dans la seconde vague du Me Too. La première vague, c'est des gens qui le méritaient, mais la seconde vague, c'est juste des folles qui veulent se venger parce qu'ils regrettent d'avoir couché avec nous autres. Puis là, il invite des amis parce qu'il veut faire un film là-dessus, tu sais. Puis tout le monde est comme, t'as pas de film. Genre, ta gueule, laisse-toi oublier. Ou excuse-toi, admets ce que t'as fait. Ta seule solution, c'est d'admettre. Mm-hmm. Fait que là, à la place, lui, il boque, puis il invite des amis. Puis ses amis, les seuls qui lui donnent raison, c'est ceux qui ont fait pire que lui. C'est les seuls qui disent, t'as raison, toi, t'es pas un violeur, t'as juste abusé des jeunes filles, mais qui en abuserait pas? Puis là, tu sais, il y a un des réalisateurs qui dit, tu sais, moi, j'ai bien couché avec une petite fille de 14 ans, mais elle m'avait dit qu'elle avait 18. Puis là, le personnage de Steve Carell fait, ouais, mais toi, t'es vraiment un violeur. Puis l'autre, il fait, ben ouais, mais toi, t'es quoi de bord? Fait que la question, on est tout le temps dans une espèce de questionnement par rapport à soi-même, pas de nos agissements, bien sûr, mais de qui qu'on supporte puis comment qu'on les supporte dans ces cas-là. Puis ça et tout, c'est vraiment intéressant. Fait que The Morning Show, pour vrai, là, c'est un de mes gros, gros coups de cœur cette année. Ça montre vraiment toutes les ramifications du Me Too. Tu sais, quand le show est en train de tomber parce que Mitch, il est plus là. C'était la co-host. C'est le co-animateur. C'est comme si du jour au lendemain, Gino Chouinard était accusé d'agression sexuelle. Qui anime « Salut, bonjour » Mais là, il est 3h du matin. Il faut décider qui anime « Salut, bonjour » à 5h du matin. Puis t'as le personnage de Jennifer Aniston qui est ici, maintenant, prête. Puis encore une fois, on juge qu'elle n'est pas assez forte. Puis elle est fâchée. Il y a un autre sujet aussi là-dessus, c'est que pendant un bout, les producteurs voulaient la retirer du show. Puis c'est jamais dit, mais je le sais qu'ils veulent que les spectateurs se le disent. Sont en train de vouloir retirer Jennifer Aniston du morning show parce qu'elle n'est plus assez aimable, puis qu'elle vieillit, puis plus elle vieillit, elle a l'air d'une grande bourgeoise, puis c'est pas ça que les gens veulent. Fait que pour l'image du show, ils veulent enlever Jennifer Aniston, mais sont prêtes à garder un gars qui est accusé d'agression sexuelle. C'est ça pareil. Il préfère garder un homme qui est accusé d'agression sexuelle que de garder Jennifer Aniston parce qu'elle passe moins selon les groupes tests. Fait que cette série-là te fait poser plein de questions. C'est tellement bon, là, The Morning Show sur le pouvoir du hashtag MeToo, mais ses répercussions dans toutes les ramifications.
Mm. Ça a tellement de l'air cool. Ça a tellement de l'air bon. Puis, mon Dieu, que ça introduit bien mon sujet à moi.
Ben, je le sais, c'est pour ça quand on s'en est dit off-cam.
Ça n'a pas de bon sens.
À quel point c'est, les deux, nos deux sujets sont ouais. imbriqués. Parce qu'on va le dire tout de suite aux auditeurs. Alex, toi, tu veux parler de Firefly?
Une série de Joss Whedon. Là, quand ça va sortir, on va être fin mars, probablement. Peut-être début avril, je ne suis pas sûr.
Peut-être
exactement.
Même début avril.
Ouais, mais au début du mois de février, Charisma Carpenter, qui était une des actrices dans Buffy et éventuellement dans sa spin-off Angel, a dit que Joss Whedon l'avait abusé. Mais là, on ne parle pas d'abus sexuels, on parle de... Ben, je vais rentrer dans qu'est-ce qu'elle a fait, dans le fond, parce que c'est un mot de man, mais quand elle est tombée enceinte durant la série, il y a eu une discussion avec son agent, puis après ça, il y a eu une discussion closed-door meeting avec elle pour lui dire qu'il fallait qu'elle ait un avortement ou qu'elle crisse son camp de show, puis elle y a dit « Je ne peux pas, je crois pas en l'avortement, je... personnellement. » Puis, c'est... je trouve que une femme devrait toujours avoir le droit de qu'est-ce qu'elle fait avec son corps. Fait que, elle ne croit pas en l'avortement pour elle. Go! Ses valeurs, c'est son corps, qu'elle fasse qu'est-ce qu'elle veut. Puis, c'est ça. Elle a été retirée du show à cause de ça. Il l'a abusé verbalement. Et après ça, Michelle Trachtenberg, qui jouait aussi dans Buffy, qui jouait la petite sœur de Buffy, a dit qu'elle n'était pas permise d'être seule avec Joss Whedon parce qu'il était trop creepy. Et que les autres actrices la laissaient jamais toute seule avec Joss Whedon. Il n'y a pas eu d'accusation d'agression sexuelle, en tout cas, à date de ce que j'ai lu.
Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était le genre à engueuler le monde comme du poisson pourri, par crier par la tête, tout ça. T'sais, autant les crew members, pas juste les acteurs, les crew members, n'importe quoi. Tout le monde était traité comme de la merde, dans le fond.
D'abuser d'un pouvoir. D'un pouvoir, c'est vrai de ça, oui.
Puis, Joss Whedon est quelqu'un que son œuvre, je l'aime énormément. J'aime Firefly, j'aime Buffy, j'aime Angel, j'aime Dollhouse, j'aime Cabin in the Woods. Pour de vrai, je trouve que c'est un excellent réalisateur. Mm-hmm. Mais je pense que c'est l'une des choses qu'il faut qu'on réalise aussi, que ces gens-là qu'on met dans une position tellement de respect puis d'idéalisation, qui sont pas parfaits pareils, puis qui restent qu'ils peuvent être des gens violents, des gens, des agresseurs, puis c'est pour ça que c'est important de croire les victimes, parce que même quelqu'un que tu mets un standard d'excellence n'est pas à l'abri d'être un tas de merde.
Effectivement.
Puis, je trouve quand même qu'une des meilleures manières de gérer ça, et ça c'est mon avis, et je ne dirai pas aux victimes comment gérer la situation pantoute, mais ce que j'avais aimé, c'était quand il y avait eu le scandale sur Kevin Spacey, puis que là, ils parlaient justement de canceller House of Cards. Mais on dit non, on est capable de faire un show, même sans le personnage de Kevin Spacey. On va garder le show parce que Claire est un personnage assez fort pour tenir la série. Est-ce que la saison qui a suivi a été de la chenoute? Oui, mais c'est pas le point. Je veux dire, j'ai aimé ça parce que toutes les autres personnes qui sont impliquées, les centaines de jobs que ça implique, les gens que c'est leur vie, ne devrait pas être responsable de l'action de cette personne-là. Cette personne-là, arrêtez de donner du travail, je suis d'accord avec ça. Un agresseur, cancelled. Fuck yeah. Cela dit, tous les personnages incroyables qui sont créés au travers de ces séries, on peut quand même avoir du... Personnellement, je crois qu'on peut quand même avoir du respect pour l'œuvre, pour la série, pour les personnages, pour le travail des acteurs, puis de tous les gens qui ont travaillé là-dessus.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis que ça reflétait beaucoup ce que j'ai écouté avec The Morning Show, c'est que il y a une scène, justement, Jennifer Aniston s'ennuie de son ami Steve Carell. Tu sais, il faut vraiment croire que tu es avec une personne à tous les jours de la semaine pendant 15 ans. C'est énorme. Puis, elle a besoin de ses conseils, elle a besoin de décrocher, elle sent que sa job est dans l'eau chaude puis elle comprend pas pourquoi. Puis elle dit à son mari, elle dit, moi, je m'en vais le voir. Là. Elle dit, je peux plus. Faut que je parle à la personne qui comprend le plus ce que je vis, puis c'est lui. Mm-hmm. Puis ça donne que pendant qu'ils sont ensemble, c'est le moment où le New York Times sort le gros article sur lui avec tous les détails, puis toutes les victimes. Puis elle est dans le champ, puis tu vois qu'elle fait comme, qu'est-ce que je fais ici? Il a beau m'avoir suivi, il a beau être mon ami pendant 15 ans, avec tout ce qu'il a fait là, il ne mérite pas de pouvoir me conseiller. Il ne mérite pas que j'aie besoin de lui. Puis c'est un peu ça qu'on dit aujourd'hui, Pan. On peut tellement aimer ces séries sans qu'on ait besoin de penser à lui en tant que créateur, tu sais.
Mm-hmm.
C'était ça mon autre parallèle que je voulais faire. Et voilà.
Donc, Firefly est une série qui mélange le country et la science-fiction. Quelque chose que je pensais pas qui m'intéresserait dans la vie, mais qui est fascinant. Puis là, on a revu le concept refait un petit peu avec par Westworld. Firefly est une série de 2002 qui a eu une seule saison. Mais ça, c'était parce que c'était dans une case horaire de marde. Parce que pour qu'une série qui a juste une saison se ramasse avec un film et un following gigantesque, c'est vraiment
oui, assez.
Parce que le channel l'aimait pas. Firefly se passe des centaines, peut-être des milliers d'années dans le futur. Ils n'ont jamais vraiment le temps quand est-ce que ça se passe. Mais ce qu'on sait, c'est que ça se passe dans le futur. Ça commence avec une guerre entre l'Alliance et la Rébellion. Et on voit que la Rébellion part. Puis après ça, on nous introduit... durant cette guerre-là, on nous introduit le personnage de Malcolm Reynolds, qui va être le personnage principal, joué par Nathan Fillion. Et sa subordinée, sa best friend de bataille, Zoé, qui est jouée par Gina Torres, qui est fantastique aussi de Suits. Puis, ce que... Après ça, une fois que ça s'est passé, on arrive dans le présent où est-ce qu'eux autres, dans le fond, ils ont été battus par l'Alliance. Fait que là, ils doivent rentrer dans le moule. Puis, ils travaillent comme une espèce de crew de mercenaires qui font des petits jobs de criminels de bas qualité. La série est tellement cool et fantastique. J'ai juste pas assez de mots pour dire comment est-ce que j'aime cette série-là.
L'avais-tu écouté originalement à la télé ou juste plus tard?
Non, je l'ai écouté plus tard. Comme la plupart des gens, je l'ai écouté sur les coffrets DVD. Mais c'est bon. C'est bon. Le premier épisode dure 2 heures, puis après ça, c'est des épisodes d'une heure. Puis, c'est ça. On a plusieurs personnages qui nous sont introduits, puis c'est tous des personnages incroyables. Je veux dire, nuancés, avec... Puis différents aussi, je dirais. Je veux dire, Kylie, qui est la mécanicienne, ingénieure, super girly, qui est une femme forte sans être une badass qui se bat. Tu sais, il n'y a pas une meilleure mécanicienne qu'elle, assez toute par rapport au vaisseau dans lequel il voyage au travers de Sérénité. Puis est en amour avec le vaisseau, puis en amour avec la mécanique, puis il n'y a rien qui peut l'empêcher d'être cheerful, girly and pink. Puis il nous introduit à Inara, qui est une companion, une sorte de prostituée de l'espace qui travaille pour la corporation, puis qui voyage, puis qui est super respectée parce que elle est comme semi de la royauté à faire ça. Elle couche avec des gens super riches puis super powerful, puis les companions sont comme des genres de geisha parce que c'est beaucoup un mix de la culture chinoise et américaine parce que c'était les deux puissances mondiales quand ça s'est passé. Et c'est entre autres une autre des choses qui est vraiment le fun, c'est que souvent ils vont comme sacrer en chinois. Il y a beaucoup d'expressions dans la série qui sont juste comme en mandarin. Puis où est-ce que tu vois vraiment qu'ils ont mixé les deux cultures? Parce que dans ce monde-là, c'était les deux puissances mondiales. Si vous checkez la liste des acteurs principaux, je vais vous dire qu'il y en a un seul que j'ai pas revu dans un rôle principal dans une série majeure depuis, là. Je veux dire, Jewel State, Nathan Fillion, premièrement, est dans tout le temps.
Castle.
est dans Castle. Morena Baccarin est dans Gotham. Mm-hmm. Jewel State a joué dans un autre truc de science-fiction que j'écoute pas, qui est Stargate, je pense, ou de quoi de genre. Je m'excuse pour...
Dans cette branche-là, ouais.
Ouais. Puis Summer Glau qui joue River, une jeune fille qui a été kidnappée par la corporation parce que c'était une espèce de génie. Puis ils ont décidé d'examiner son cerveau pour mieux le comprendre. Puis potentiellement la tourner en espèce de soldat. On le sait pas parce que la série a jamais trop été complétée. Et on a des trucs qui sont expliqués dans le film qui vient après sans que tout soit complété. Pour vrai, ça, c'était un pas pire fuck you de Joss Whedon qu'il a vraiment pas terminé toutes ses storylines parce qu'il était comme « Ah, on m'a pas laissé le temps, j'ai fini pas tout. »
Pas juste ça, c'est parce que à l'origine, ça avait déjà... Moi, je l'avais écouté à la télé, là, puis originalement, j'étais comme « Ah, qu'est-ce... » Puis il y a bien du monde qui ont eu le même réflexe de « Qu'est-ce que je suis en train d'écouter, là? » Premièrement, ça jouait à une heure qui faisait aucun fucking sens. Qu'est-ce qui se plug en avant de la télé un vendredi soir, quand même assez tard? Je pense que ça jouait vers 9 ou 10 heures. C'est comme le dead slot. C'est la place où tu mets jamais une série parce que personne l'écoute. Puis, ils ont pas montré les épisodes dans le bon ordre.
Oui!
Fait que tu comprenais fuck all de qu'est-ce qui se passait. Fait que moi, au bout de comme 3 ou 4 épisodes, je me souviens, avec une de mes amies, on était comme... T'aimes-tu ça? Puis j'étais comme, pas vraiment. Si, je comprends rien.
Mais j'étais c'est comme
full confuse. Genre.
C'est entre autres parce que le premier épisode durait 2 heures, donc ils l'ont mis à la fin comme un special à la place de le mettre au début.
Mais voyons donc.
Ouais. Fait que t'as comme pas d'introduction, tu sais, ça commence un peu comme à fret dans moi-même. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis en plus, c'était comme à une heure où c'était comme facile de le manquer, là, parce que... Surtout moi, dans ce temps-là, j'avais autre chose à faire dans mes vendredis soirs, personnellement. C'est pas tout le monde qui avait un enregistreur. Fait que, tu sais, je veux dire, ça l'avait rien pour réussir, là, quand ça l'a sorti. C'est ça que c'est dommage. Ça a été comme... Il s'est comme fait donner une mauvaise deal parce que Fox, ce qu'il voulait, c'était un nouveau Buffy ou un nouveau Angel, puis c'était pas ça. Fait qu'ils l'ont comme... Ils ont tout de suite dit, tu vas avoir juste une saison, puis c'est ça qui est ça, puis ils l'ont sacré tard le vendredi soir, puis fuck you, là. C'était that's it. Mais c'était vraiment ça, là, c'est l'affaire que je retiens le plus, c'est à quel point que j'étais comme quoi?
Mais moi, on m'a déjà prêté le coffret à Alex, puis après un épisode, j'avais trouvé ça so-so. C'est sûr que je suis vraiment pas une fille de science-fiction, fait que ça part beaucoup en moins, mais je vais quand même te poser la question, pourquoi ça a pas mal vieilli? Pourquoi aujourd'hui, là, 15 ans plus tard, quasiment 20 ans plus tard, on écoute Firefly?
Mais premièrement, les effets spéciaux pour un budget qui était comme ça étaient solides. Je veux dire, c'était pas une série à effets spéciaux comme tel, mais les effets spéciaux étaient pas pires. Le texte est fantastique. Les acteurs sont incroyables. Puis sont drôles, puis ont une chimie qui est tellement comme, naturelle.
Mm-hmm.
Je pense que aussi, ça résonne beaucoup parce que les personnages qui sont créés sont nuancés, sont forts. Sont incroyablement drôles, puis sont toute la gang flawed. T'sais, ils ont toutes des vrais issues, ce qui les rend tellement humains.
Ouais, ils ont tous des défauts, ils ont tous de quoi. T'sais, sont toutes égales, dans le fond. Là.
Ouais, d'une certaine manière, je veux dire, puis il y a tellement une. Tu dis souvent comment est-ce que t'aimes les séries de chums de filles, ben je te dirais, c'est vraiment une série où est-ce que je ressens. Qu'il y a de l'amitié puis il y a du respect entre les personnages.
Wow. Comme
la chimie se met vraiment très clairement entre différents personnages au travers de ce que tu vois évoluer. Ils ont toutes leurs propres relations qui filent très vrai puis très naturel pour ce que ces personnages-là auraient. Tu sais, il y en a un dans Gang que c'est un espèce de pasteur qui voyage au travers de l'univers pour répandre la bonne nouvelle de Dieu. Puis il y en a une. Que justement, elle est une prostituée, si on veut, une vraiment high-class prostituée. Puis, tu sais, ils ont des anicroches là-dessus, mais ça reste deux personnes qui sont basées tellement dans le respect. Tout ça, qui ont une belle relation,
okay.
Malgré que leurs valeurs clashent super gros ailleurs.
Mais moi, j'ai un unpopular opinion, là. Dans le fond, une opinion moins populaire par rapport à... à la série que, vu que originalement je l'avais pas tant aimé, puis j'avais pas embarqué, puis j'avais pas vraiment suivi parce que personne ne savait que c'était pas en ordre, j'ai vu le film, puis après je suis retournée voir la série, puis là je l'ai vraiment aimé parce que j'avais vraiment aimé le film. Fait que des fois, peut-être, Vicky, si t'étais pas sûre, écoute le film.
Oui.
Parce qu'au moins, quand tu réécoutes la série, tu comprends tout.
Mais non, moi, je suis d'accord avec ça. C'est un peu les films qui m'ont ramené vers X-Files. Tu sais, X-Files, je l'écoutais quand j'étais jeune à la télé. Mm-hmm. Mais à un moment donné, j'ai comme pogné un des films, puis j'ai fait « Ah, je veux tellement me souvenir de l'univers étendu. »
C'est ça.
Ouais, je vois ton point. Non, bonne idée, Chantal, et bonne suggestion. Alex, t'as-tu autre chose à rajouter sur Firefly, Alex?
Je pourrais continuer pendant des heures, mais écoutez, moi, je l'aime, cette série-là. Je l'aime d'amour. Je m'en
retape. Peux-tu l'avoir à quelque part, présentement? Excuse-moi.
Oui, exactement. Merci de l'avoir dit, parce que je pense pas que j'y aurais pensé. C'est sur Disney+, en ce moment, et le film Serenity a aussi été acheté par Disney. Fait que,
Excuse-moi.
Oui, ils l'ont pas mis encore, je pense, le film, hein?
Oui, il est là.
Ah, ils l'ont mis. Ah, OK. Au début, il avait sorti la série, puis j'ai pas regardé s'il avait mis le film, fait que je pensais qu'il l'avait pas mis.
Fait que c'est quelque chose que tu réécoutes régulièrement, parce que je t'ai un petit peu coupé là, dans ce que tu allais dire.
Oui, moi, je l'écoute à toutes les années. Pour vrai, je me tanne pas. Je trouve que c'est une série que j'aurais voulu. Je n'aurais écouté cette saison sans problème. Ouais. Puis ça me laisse toujours un petit peu sur mon vide que...
Puis en as-tu eu des pétitions puis des demandes, puis il n'y a rien à faire? Puis là, ben encore moins à cette heure.
Il y a encore moins.
Ouais, ça fait 20 ans que la série a fini. Il n'y a plus un des acteurs qui a l'âge de jouer.
Non, exactement.
Il faut se contenter de ça.
Adam Baldwin, là, je viens de voir une photo de lui maintenant, puis mon Dieu, il a joué le beau jeune homme qui jouait dans le temps. Ouais. Il y en a qui vieillissent moins bien que d'autres.
Il faut se contenter de ce qui est là. Et pour les gens, encore une fois, je veux faire un peu un recap de l'épisode, mais je ne veux pas exclure Chantal parce que je sais que c'est le sujet Alex puis moi qui serait coupé par complet hasard. Mais je veux quand même dire aux gens, pour ceux qui hésitent de regarder Firefly parce que vous dites Joss Whedon, je ne veux pas l'encourager ou quoi que ce soit, comme je vous dis, peut-être faire un petit détour par The Morning Show. Parce que ça, moi, personnellement, ça me réconcilie avec la séparation de l'œuvre et l'artiste. C'est sûr que c'est pas tout le temps. On s'entend que quand l'artiste est tellement présent dans son œuvre, parfois, on peut pas l'effacer. Mais je pense que certaines fois, dans l'œuvre et l'artiste, on est capable de les séparer à certains moments, certainement par rapport à certaines œuvres. Et je pense que Firefly, l'œuvre de Joss Whedon, en certains moments... ça peut être possible. Puis, si vous voulez voir un petit peu le background, ça serait, je crois, beaucoup de Morning Show pour... moi, ça m'a réconcilié énormément avec cette pensée-là. Puis, non, je serais pas capable de lire... tu sais, on a Max Neff qui est un pédophile littéraire qui publiait ses journaux. Dans ses journaux, il disait à quel point il agressait des enfants sexuellement puis que tout le monde devrait faire ça, faire découvrir la sexualité aux enfants avec des adultes, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Mais j'ai pas envie de lire ses livres. Lui, j'ai pas envie de séparer l'œuvre de l'artiste parce que son œuvre est dégueulasse.
Mais son œuvre, c'est pas fictif.
C'est ça, exactement. Mais quand on a accès à certaines fictions, je pense que c'est possible. Il y a une vaste... Tu sais, il y a beaucoup de sujets, puis c'est tellement du cas par cas, je pense, ce genre de sujet-là. Mais personnellement, moi, on ne pourra pas m'enlever mon amour pour Buffy, tu sais. Puis je comprends ton amour pour Firefly, puis on ne m'enlèvera pas mon amour pour Buffy. Puis je pense, c'est ça, qu'il y a, vraiment cette manière de voir les choses qui est que certains ne pourront pas voir autre chose que l'artiste derrière l'œuvre, mais quand c'est possible, je pense d'aller voir Firefly, c'est une très bonne suggestion.
Moi, on l'a vu avec Harry Potter aussi, là. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, ben moi, j'aime pareil Harry Potter, puis même si les acteurs se sont dissociés de l'auteur original, ça reste que les films, etc., les gens sont comme, ben ils sont bons, je vais les apprécier pareil, là.
J'y ai pensé également. Chantal, je te laisse parler, Alex, dans 3 secondes. C'est juste que moi, je suis pas fan. J'aime pas Harry Potter. Fait que je peux vous laisser en jaser, mais je pourrais tellement pas marquer sur le sujet. J'aime pas Harry Potter. Fait que je le sais pas.
Je pense que ça revient au fait aussi que, tu sais, si jamais vous aimez de quoi qui a été fait par quelqu'un qui est problématique ou qui est l'œuvre de quelqu'un de problématique, ça veut pas dire que l'œuvre elle-même l'est. Si vous êtes capable de séparer les deux, tu sais, puis je trouve qu'il y a... il y a une place où est-ce que, tu sais, il y a tellement de gens trans, par exemple, qui aiment Harry Potter, il y a tellement, tellement de gens trans qui aiment Harry Potter, puis que ça leur a fait mal ce qui s'est passé. Dans l'univers d'Harry Potter, là, je suis convaincu que McGonagall, elle connaît des... C'est la prof de transfiguration, puis qu'elle connaît des gens qui se sont transfigurés de genre au travers de la magie. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que dans cet univers-là, il y a plein de gens LGBTQ+.
Ah, c'est ça. Mais tu sais, comme moi, genre, je suis capable pour plusieurs différentes œuvres, comme pour Firefly, comme pour Harry Potter, je suis capable de séparer. Il y a d'autres situations où je suis pas capable. Fait que c'est correct aussi s'il y a des gens qui sont pas capables. Il y a des affaires qui nous touchent plus, des affaires qui nous touchent
moins. Voilà.
Ça varie d'une personne à l'autre, mais tu sais, il n'y a pas de honte autant d'un bord que de l'autre. Si t'es pas capable, t'es pas capable, c'est correct. Si t'es capable, c'est correct.
Absolument. Puis écoutez-vous, puis continuez à nous écouter.
Oh! Yes!
Et le tout, c'est le podcast Nos Écrans. Mais moi, je voulais aussi continuer avec ce n'est pas parce que vous endossez et vous aimez une œuvre que vous endossez son auteur au complet.
Oui.
Ça aussi. Il y a ça. Il faut faire attention à ça. Et donc, oui, on a parlé beaucoup du Morning Show sur Apple TV et également Firefly qui est disponible sur Disney+. Mais on a Chantal qui nous a parlé également de Curse of La Llorona sur de l'univers Conjuring sur Netflix. Ça, je veux pas que Chantal se sente à part là, parce que ça a donné de même. Moi, j'ai écouté The Morning Show, je l'ai fini genre là, 2 jours. Là. Fait que tu sais, ça a comme à donner que Alex dit hey, savez-vous, ça fait un bout, je vais parler de Firefly, je me sens mal, j'ai fait sais-tu, moi j'allais parler de The Morning Show. Fait que je pense qu'on est capable de montrer aux auditeurs qu'on n'est pas insensible à ce sujet, mais qu'il y a tellement de manières d'en parler, puis je pense que nos deux choix seront...
Moi, de toute façon, c'est le hasard que j'ai écouté de quoi de pas bon, puis que j'avais... Je n'ai parlé pareil parce que je voulais donner mon opinion, même si c'était pas tant bon, tu sais, mais...
C'est ça!
Ça donnait rien d'élaboré là-dessus. Il y a rien... Même le film ne savait pas comment s'élaborer lui-même, fait que tu sais... J'ai rien à ajouter.
Un film sur une mariée qui tue des enfants aurait été le sujet léger de la journée.
Oh, merci, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci, Alex, t'as réussi à détendre tout ça pour finir. Et c'est juste sur nos écrans où vous pouvez entendre un podcast où une femme qui tue des enfants, c'est moins élevé.
Yes!
Voilà. Merci! À la prochaine!